des... Voilà. Ça fait un merveilleux enchaînement pour justement là.
Donc c'est Pierre Cioncelli qui va le faire le point.
Comme a dit Julie, on pourra revenir sur les questions que vous auriez voulu poser sur les thèmes qui ont déjà été abordés, mais on va continuer sur la conférence de presse. Vous avez une troisième petite note qui est encore plus courte que les autres, qui s'intitule « Les acrobaties statistiques continuent ». Donc il y a un certain nombre de choses dont Thomas a déjà parlé. Je vais quand même y revenir brièvement parce que c'est important, puis pour vous donner peut-être deux ou trois points de repère différents. Donc premièrement, ce qu'on a appelé dans cette note « la valse des indicateurs ». Donc Thomas a parlé du changement de définition du taux de chômage. Ça a quand même des conséquences dans la façon dont on appréhende ou dans la façon dont on peut évaluer les politiques publiques. Et vous savez tous qu'il y a un objectif qui a été affiché par le gouvernement qui est d'arriver à un taux de chômage de 5%. Cet objectif, il a été défini par Nicolas Sarkozy durant la campagne présidentielle à l'université de l'UMP à Marseille en septembre 2006. À l'époque, le seul taux de chômage officiel reconnu, c'était celui de l'enquête emploi, donc de 2005, et le chômage était presque à un niveau de 10%, il était à 9,9%, ce qui voulait dire que se fixer un objectif de 5%, c'était diminuer le taux de chômage par 2. Alors on passait grosso modo de 10 à 5. Qu'est-ce qu'on peut constater deux ans après, donc en novembre 2017, l'INSEE a publié, après avoir suspendu cette publication de façon tout à fait critiquable, comme l'a rappelé Thomas, pendant plusieurs mois, hein, durant la campagne présidentielle précisément, a publié ces nouveaux chiffres de taux de chômage avec des changements de méthodologie, mais aussi et surtout des changements de définition. Et là, on se retrouvait pour l'année 2007 avec un taux de chômage de 8%. Donc en deux ans, moins 2 points de chômage, moins 2%, on peut se dire que finalement, on est sur la bonne trajectoire, puisque si on continue comme ça, eh ben on arrive effectivement à 5%. Le problème, c'est que cette baisse, comme ça a été dit, est largement fictive, puisqu'elle résulte pour moitié d'un changement de définition du taux de chômage. Autrement dit, là, c'est une interpellation qu'on pourrait faire à la fois aux hommes politiques, mais aussi peut-être au système statistique s'il veut nourrir le débat de façon informée. L'objectif de 5%, c'est pas 5% désormais, c'est 4%. Hein, si on veut être cohérent avec les repères qui étaient ceux à l'époque à laquelle cet objectif est fixé, il faudrait décaler aussi l'objectif pour arriver à l'objectif encore une fois fixé par Nicolas Sarkozy. Il faudrait atteindre un taux de chômage de 4%. Premier point. Le deuxième point, bon, il a été déjà évoqué, je ne vais pas trop y revenir, c'est le changement dans la définition du taux de sous-emploi, hein, qui a fait baisser et sortir du sous-emploi donc 300 000 personnes, ce qui est tout à fait considérable. Et là, effectivement, je crois que c'est clair que ce changement n'a jamais été évoqué dans les réunions du groupe de travail du CNIS, qui s'est penché, qui va demain présenter son rapport devant la formation éducation par revenu. Donc c'est dire un petit peu, il faut rappeler aussi, bon là que ce groupe de travail avait été court-circuité déjà par une mission de l'Inspection Générale des Affaires Sociales et de l'Inspection Générale des Finances qui avait rendu un rapport en septembre. C'est dire un petit peu les doutes qui pèsent sur la façon dont seront considérées les propositions qui sont dans ce rapport si un groupe sur le chômage et le sous-emploi n'est même pas informé des changements majeurs que l'INSEE prépare dans cette publication. C'est un petit peu problématique. J'en reviens à votre question directement. Il y a d'autres indicateurs qui valsent, enfin en tout cas qu'il est prévu de faire valser, c'est l'indicateur de pauvreté. Martin Hirsch, vous l'avez peut-être suivi, a décidé de, enfin cherche en tout cas, à promouvoir un nouvel indicateur de pauvreté qui porte un nom un peu barbare, peut-être pour faire un peu sérieux, c'est le taux de pauvreté ancré dans le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on définit une année donnée un seuil de pauvreté comme on le fait couramment, en tout cas comme le font couramment les statisticiens en termes d'un certain pourcentage de la médiane du niveau de vie. Simplement, au lieu de faire évoluer ce seuil en fonction de la croissance, on le maintient en euros constants tout au long de la période. Alors ça n'a peut-être pas l'air de grand-chose, mais ça fait mécaniquement baisser la pauvreté. Et il y a un économiste, Jean Gadret, qui a tout à fait bien illustré cela. Il a calculé comment aurait évolué le nombre de pauvres entre 2000 et 2005 si on avait retenu cette définition. Alors d'abord, je vous donne l'information qui est officielle, jusqu'à présent en tout cas, c'est celle de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, l'OMPES. Selon cet organisme, le nombre de pauvres, il était de 7,1 millions en 2000, il était toujours de 7,1 millions en 2005. Si on avait retenu la définition proposée par Martin Hirsch, on aurait une baisse du nombre de pauvres de 1,4 million. Donc vous voyez que c'est tout à fait considérable. Hein. Il n'y a plus besoin de faire de politique, il suffit de changer l'indicateur pour atteindre les objectifs. Et Jean Gadret montre aussi qu'avec un tel indicateur, suivant la période de référence qu'on retient, on peut finalement avoir la baisse de pauvreté qu'on recherche. Je cite l'article qui a publié. Ancré en 2000, donc si on avait un taux de pauvreté ancré en 2000, on réduirait d'environ 3 millions le nombre de pauvres entre 2000 et 2012. Donc vous voyez, on va au-delà de l'objectif. Et s'il était en base 96, on dépasserait 4 millions. Enfin bref, on peut faire dire un peu ce qu'on veut à cet indicateur. Alors, faire dire ce qu'on veut aux chiffres, ça, on a un peu l'habitude de la part des hommes politiques. Ce qui est plus grave, à mon avis, c'est que le système statistique public, et notamment l'INSEE, semble, je dis semble parce que j'espère que ça va changer, mais semble valider cet indicateur alors qu'il n'a aucun fondement scientifique. Là, je crois qu'il faut être clair, il n'y a aucun institut statistique qui retient cette définition. On peut chercher dans la théorie économique, on ne trouvera jamais aucun fondement permettant de légitimer cet indicateur. Et donc là, ça pose un vrai problème sur la crédibilité, à mon avis, du système statistique. Hein, voilà, donc un autre champ où, effectivement, il y a des enjeux majeurs et où il y a des changements d'indicateurs qui se passent. Le second aspect que je voudrais évoquer ce soir, c'est tout à fait en liaison, d'ailleurs, avec l'actualité, puisque Christine Lagarde va annoncer demain des choses sur les offres raisonnables, valables d'emploi, etc. Et, bon, comme vous l'avez sans doute lu dans la presse, on nous dit qu'il y aurait 500 000 offres d'emploi non satisfaites. Argument qui est censé servir soit à justifier des quotas de migratoires sur certains types d'emplois où on aurait besoin davantage de ressources, ou plus simplement et de façon plus inquiétante, à stigmatiser les chômeurs. Et c'est exactement d'ailleurs la déclaration de Nicolas Sarkozy il y a quelques mois, c'est de dire il y a d'un côté 500 000 emplois non satisfaits, il y a 2 millions de chômeurs qui recherchent un emploi, la grande majorité des chômeurs recherchent un emploi, mais il y a une petite minorité, et ça, c'est, qui ne le fait pas, et ça, c'est critiquable. Donc on voit bien l'argument politique qu'il y a derrière cette juxtaposition de chiffres. Alors, la première chose à dire, c'est qu'il n'y a aucun service statistique, que ce soit la DARES, la NPE ou l'INSEE, qui assume ce chiffre. Donc on se demande un peu d'où il vient. Quand on cherche un petit peu, on voit que c'est vraiment un calcul de coin de table, c'est-à-dire qu'on a pris un stock, entre guillemets, d'offres non satisfaites. Je vais revenir sur la définition de la NPE, que donne la NPE de ces offres non satisfaites à un mois donné, et puis compte tenu de la part estimée de marché qu'aurait la NPE dans ces offres, on l'a multiplié tout simplement par 3, pour faire bien, et on arrive à quelque chose qui est proche de 500 000 offres non satisfaites, mais ça n'a aucun fondement statistique, dans la mesure où il n'y a aucun... Les employeurs peuvent utiliser l'NPE pour évidemment proposer d'offres d'emploi, mais personne ne les oblige à retirer systématiquement les offres. Donc on voit bien que c'est un indicateur qui, même sur le fond, n'a guère de signification. En revanche, on a une enquête depuis quelques années, c'est une demande de la Commission européenne, qui mesure le nombre d'emplois vacants. Et si on prend les résultats de cette enquête, on constate que en France, on a un taux d'emploi vacant qui est très faible, qui est de l'ordre de 0,6%, c'est-à-dire 150 000 emplois vacants. Alors, avec toutes les difficultés qu'il y a à mesurer cette notion d'emploi vacant, qui peut être interprétée différemment selon les, entreprises. Mais il est clair que dans les comparaisons internationales, la France est parmi les pays où le taux d'emploi vacant est le plus faible. Et comparativement à la masse des demandeurs d'emploi, on est dans des ordres de grandeur tout à fait qui n'ont aucune comparaison. Et d'ailleurs, si on voulait être logique, on devrait comparer le stock des offres d'emploi qu'on peut mesurer au moins le mois à l'NPE au total des demandes d'emploi. Et là, on a un rapport qui est de l'ordre de, aujourd'hui, entre 300 000 offres. Si vous allez sur le site de l'NPE, on vous dit qu'il y a entre 270 000, suivant les mois, et 300 000 offres d'emploi à proposer. Et vous savez qu'il y a, si on fait le compte de toutes les demandes, environ 4 millions de demandes d'emploi. Donc on est vraiment dans un rapport qui est très disproportionné. Et donc la question des difficultés de recrutement ne se pose pas de la même façon. Donc, en plus, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire dire à cet indicateur ? Pas grand-chose, parce que finalement, ce stock, il reflète quoi ? Il reflète la vitesse à laquelle les offres, elles sont finalement absorbées par le marché du travail, en quelque sorte. Chaque année, en tout cas en 2007, il y a eu 3,5 millions d'offres d'emploi déposées à la NPE. Comme il faut à peu près un peu plus d'un mois pour écouler une offre d'emploi, mécaniquement, compte tenu de ce volume annuel, vous avez chaque mois quelque chose qui est de l'ordre de ce que je vous disais tout à l'heure, comme 300 000 emplois qui ne sont pas non satisfaits, qui sont en attente d'être satisfaits. C'est pas exactement la même chose. Donc voilà, c'est simplement... Alors on pourrait dire qu'on va réduire ce stock, on va essayer de faire en sorte que ces emplois soient pourvus plus vite. Bon, ça peut être un objectif, mais c'est vraiment sans commune mesure avec les besoins et les demandes d'emploi de l'autre côté. On le voit très, très... clairement, donc, de la même façon qu'il y a un chômage frictionnel, il y a des offres et des vacances d'emploi frictionnelles. Et effectivement, ça se traduit par le fait que, encore une fois, si vous allez sur le site de l'NPE, vous avez tous les mois un certain stock qui s'affiche d'offres d'emploi. Dernier point qu'on pourrait mentionner là-dessus, c'est finalement quel est l'usage politique qu'on fait dans le débat public, en tout cas de ces indicateurs. Au prétexte qu'il y aurait donc quelques centaines de milliers d'offres non satisfaites, comme je viens d'essayer de vous le montrer sans doute trop rapidement, ce n'est pas des offres non satisfaites, c'est simplement un indicateur qui traduit le fait qu'il faut un certain temps pour que des offres d'emploi soient satisfaites. On demande aujourd'hui aux chômeurs d'accepter des conditions de rémunération beaucoup plus dégradées. On demande d'abaisser leurs prétentions salariales. C'est tout le débat. On va y revenir tout à l'heure avec les autres contributions sur l'offre raisonnable, valable d'emploi, le caractère, la définition concrète, surtout en termes de salaire, de ces offres. Donc, il y a quelques offres d'emploi non satisfaites. Il faudrait que les salariés, que tous les salariés, abaissent leurs prétentions salariales. De l'autre côté, il y a 10 fois plus, j'allais dire, même beaucoup plus, de demandes d'emploi non satisfaites, mais on ne demande pas aux entreprises, notamment dans les branches qui sont les plus touchés par ces tensions sur le marché du travail, d'augmenter leur salaire ou d'améliorer leurs conditions de travail. Donc il y a vraiment deux poids, deux mesures, si vous voulez. Donc on voit que c'est un argument qui est tout à fait orienté pour, encore une fois, accentuer la pression qui pèse sur les chômeurs et, de façon générale d'ailleurs, sur l'ensemble des salariés, y compris ceux qui ont des petits boulots, pour accepter encore plus qu'ils ne font aujourd'hui des emplois dégradés en termes de conditions de travail et en termes de salaire.
Merci. Y a-t-il des questions sur ce sujet ?
Oui. Je voudrais savoir quelle est la part estimée des offres vacantes qui se trouvent à l'NPE par rapport au total des offres vacantes. Est-ce qu'on a une idée ?
Le chiffre qui circule, c'est entre 40 et 50%. Des offres qui transitent par la NPE. J'ai oublié de préciser une chose qui me vient à l'esprit, mais c'est ce que je te vois, donc la précarité surgit tout de suite dans mon esprit, c'est que la très grande majorité des offres à la NPE sont des offres d'emploi précaire.
Mais oui.
Je crois que c'est 70%. Donc même dans cette comparaison des demandes et des offres, il faudrait rapporter les offres d'emploi non satisfaites de CDI au stock de gens qui recherchent. Enfin bon, même dans la comparaison purement chiffrée, il y a d'énormes biais dans ce qu'on en raconte. Donc franchement, la réponse, c'est on estime qu'il y a entre 40 et 50% des offres qui transitent par la NPE.
Avez-vous d'autres questions ?
Je suis pas sûre que j'ai bien noté, vous avez dit le taux d'emploi vacant en France, c'est 0,5%.
0,6.
Et donc, c'est quoi la définition
en fait ? On pose la question aux entreprises, donc c'est là qu'il peut y avoir des difficultés d'interprétation, d'autant que c'est une question, enfin, c'est une enquête relativement récente, je crois qu'elle a 4 ou 5 ans, en fait, si je me souviens bien.
C'est une enquête du ministère du Travail, une enquête ACEMO, qui comporte depuis quelques années des questions sur les emplois vacants, mais elle est, je ne crois pas que les résultats soient publiés.
On n'entend
pas ? Non, les résultats ne sont pas publiés.
Les résultats de cette enquête ne sont pas publiés en France.
Ils sont publiés.
Ils sont publiés par Eurostat.
Voilà. Mais on en retrouve quand même des traces dans certains documents de l'UNEDIC. Tout ça est un peu compliqué.
Ils ne sont pas publiés en France parce qu'ils sont justement très bas.
Et on sait. Donc, en fait, les statisticiens s'interrogent effectivement sur pourquoi il y a un taux d'emploi vacant si bas en France. Probablement que c'est la façon dont l'entreprise interprète cette question qui.
Alors, probablement, ça veut dire que le mot même d'emploi, le concept même d'emploi vacant. A un sens dans l'administration, mais peut-être pas beaucoup de sens dans la plupart des entreprises. Donc c'est pour ça que les entreprises ont beaucoup de difficultés à répondre à cette question et que les ordres de grandeur des enquêtes sur ces questions apparaissent peu vraisemblables. C'est vrai que comme il y a, 6 millions de recrutements... 6 à 8 millions, il me semble, de recrutements. Oui, c'est ça. Il y a 8 millions de recrutements par an, parce que ça se mesure par le nombre de déclarations d'embauche, hein, des déclarations uniques d'embauche qui sont déposées par les entreprises. Il y en a 8 millions par an. Donc dire qu'il y a 150 000 emplois vacants, ça paraît pas beaucoup par rapport à l'ampleur des flux d'embauche. À un moment donné, même, ça paraît pas beaucoup par rapport à l'ampleur des flux d'embauche. Donc le concept même d'emploi vacant semble manquer vraiment de consistance. On est bien incapable de dire exactement ce que ça signifie. Voilà. Depuis combien de temps, quel moyen l'entreprise a mis en œuvre pour recruter. Tout dépend de ça. Quoi. Et là, il n'y a aucune définition qui permettent de fixer un peu un concept.
Est-ce que vous avez une décision de ce dénominateur, vous mettez la totalité des emplois ou ça n'est pas de la fonction publique ?
Non, alors l'enquête porte sur le secteur privé.
C'est que le secteur privé ?
Que le secteur privé.
J'ai encore une question. Est-ce qu'on a une appréciation, une estimation du nombre d'emplois qui sont proposés par la NPE à un chômeur ? Parce que le projet de loi là, qui a été présenté au Conseil supérieur de l'emploi le 26 mai prévoit des sanctions, soit des radiations, pour les chômeurs qui refuseraient deux offres valables d'emploi. Mais en réalité, nous qui travaillons quotidiennement avec des chômeurs, ils nous disent que quand ils sont suivis par la NPE, en général, dans beaucoup de régions, on ne leur propose même pas d'emploi. Donc, il y a un petit peu un discours qui s'enfle sur les chômeurs paresseux qui refuseraient des autres emplois, alors qu'en fait, on ne leur en propose pas. Donc, je ne sais pas si c'est apprécié, ça. Est-ce que la NPE propose vraiment des emplois à qui, etc. Et puis, quand on fait les offres de la NPE, très souvent, comme vous le disiez, c'est des emplois de 8 jours ou de quelques heures. Alors, est-ce qu'on peut encore appeler ça un emploi ?
Jean-Claude Dantel ?